Camille Alary. Le maestro d'Orvieto. Chapitre 1. Jamais homme ne fut plus heureux ni plus content de lui que le maestro Guido Fugantini, le jour où, enseveli sous ses couvertures, du compartiment de deuxième classe qu'il occupait depuis la frontière, il vit, à travers la vitre embuée, que le train franchissait l'enceinte des fortifications et entrait ensuite, au bruit de toutes ses roues heurtant les rails et les plaques tournantes, en gare de Paris. Pour vous rendre exactement compte des sentiments divers qui l'agitaient, pensez donc que Fugantini arrivait en droite ligne du pays des citronniers et que, grâce au mirage de son imagination méridionale, Paris, deviné plutôt qu'aperçu par lui dans l'épaisseur d'un brouillard de décembre, lui apparaissait, par cette matinée d'hiver froide et pluvieuse, sous ce ciel bas, gonflé d'orange, comme un monde nouveau, plein d'enchantement et de splendeur. Le maestro d'Orvieto, pour lui conserver le surnom que lui donnèrent par la suite les journaux bien informés, était né au fin fond des États romains, dans cette petite ville tranquille, studieuse, qui, avec ses églises profilant les flèches dentelées de leurs dômes sur la pureté du ciel bleu, et les cloches de ses monastères carillonnant du matin au soir, ressemble plus à un Escurial qu'à une industrieuse cité romaine. Un mystère planait sur sa naissance. Lorsque, dans les salons, la conversation roulait sur lui, on racontait tout bas, presque dans l'oreille, je ne sais plus quel roman de Carmélite enlevé, puis séduite par un capitaine de la garde royale. Guido fut mis en nourrice. Plus tard, sur un ordre écrit, disait-on, par son père, il partagea la solitude d'un brave curé qui devait l'instruire. Tour à tour enfant de cœur, chantre, organiste, l'adolescent devint homme. Tout jeune, il avait montré une irrésistible vocation musicale. À 16 ans, debout sur un escabeau, derrière le maître-autel, entouré de sa phalange d'instrumentistes, grisé par les vapeurs de l'encens, par l'éclat des cierges, le bâton de chef d'orchestre serré fébrilement dans sa main nerveuse, il dirigeait déjà, avec une audace juvénile, l'exécution des messes solennelles. Son expérience et son savoir grandirent avec l'âge. Comme ses fonctions d'organiste n'absorbaient pas complètement ses loisirs, il se mit à donner des leçons de musique. Cela lui permit de mettre en réserve, au bout de quelques mois de cette existence, une somme assez rondelette. Il fallait le voir trottiner par les rues, alerte, la mine avenante, propre, l'étui de son violon pendu au doigt. Le soir, sitôt qu'il avait terminé la partie de dame de l'abbé, il courait se barricader dans la petite chambre qu'il occupait sous les toits, allumait sa lampe, s'asseyait en face de son pupitre et en avant l'archet flexible et le carré de colophane. Jusqu'à l'aube, les airs les plus variés résonnaient sur l'harmonieux crin-crin, vibraient entre les murs nus de la mansarde et s'envolant à travers les fentes des volets, finissaient par aller mourir dans les rues désertes où, de loin en loin, les chats du quartier promenaient leurs amours vagabondes. C'est vers cette époque qu'il nota les premières mesures de la Fille du Soleil, opéra en quatre actes dont le syndic d'Orvieto, qui cultivait la poésie à certaines heures, avait conçu le livret. Ah, cet opéra! Quelle joie profonde! Quel délire il devait lui donner! Pendant de longues années, le jour, la nuit, il y travailla avec une ardeur qu'aucune lassitude ne modéra jamais. De rares invités eurent l'honneur d'assister à une audition de l'œuvre. Tous reconnurent que la partition du jeune compositeur contenait d'incomparables beautés. Dès lors, Guido devint illustre. On se le montrait du geste, le dimanche, à la messe, quand, tandis que ses mains frémissantes couraient sur le clavier, l'orgue, dominant les chants sacrés, grondait sous les voûtes de l'église, et maint amoureuse avait senti palpiter son sein en regardant, à la dérobée, cet artiste au front superbe, dont les yeux noirs roulaient les flammes du génie. La partition et l'orchestration de son œuvre achevée, Guido n'eut plus qu'un désir, partir pour Paris. Il lui fallait, coûte que coûte, les applaudissements des dilettantes qui avaient sacré Verdi. Chaque fois qu'il ouvrait un journal, les syllabes magiques de ce nom, Paris, flambaient, soulignaient d'étincelles, devant ses yeux aveuglés. une force contre laquelle il se sentait incapable de lutter l'attirait, le poussait vers cette capitale du monde civilisé qui, seule, tresse les couronnes des renommées immortelles. Alors, un beau matin, sans tenir compte des remontrances du vieux curé, sans s'arrêter aux objections de ses amis qui crurent devoir lui faire observer que la gloire est une maîtresse orgueilleuse et froide qui ne donne l'ivresse de ses baisers qu'aux cadavres défigurés de ses amants, il empila ses nippes dans une malle étroite, plaça au-dessus ses économies, côte à côte avec sa partition, puis, délirant d'enthousiasme, s'achemina vers la France. Chapitre 2. Peu après, les habitués du boulevard coudoyèrent pour la première fois un personnage d'apparence chétive, au visage émacié, aux longs cheveux gras, qui, moitié homme d'église, moitié homme de théâtre, une toque en peau de lapin sur sa tête fine, un vieux châle écossais autour du cou, arpentait le macadam parisien, vêtu d'une interminable redingote dont les poches de derrière, gonflées de papier, lui battaient les mollets. C'était l'illustrissime maestre d'Orvieto. En moins d'une semaine de recherche, il finit par retenir un logement, rue de la Harpe, en plein quartier latin. Le gîte assuré, il commença la série de démarches qui devait ouvrir les portes du théâtre à son opéra. Il se présenta tout d'abord à l'hôtel du cardinal légat du Saint-Siège. L'éminence, séduite par la faconde de son compatriote, charmée par sa modestie, le fit asseoir, l'écouta avec une paternelle bienveillance et, finalement, lui avoua son incompétence en pareille matière. Fougantine ne se décourageait pas pour si peu. Il insista tant et si à propos qu'il obtint une lettre d'introduction destinée à l'ambassadeur d'Italie avec lequel le cardinal entretenait des relations très suivies. Là, le maestro fut plus heureux. L'ambassadeur, enchanté de pouvoir se poser en protecteur des arts, lui donna un mot de chaude recommandation, portant, écrite tout à fait en haut de la feuille de papier, sous son blason rayé de la barre de bâtardise, l'adresse du directeur du théâtre lyrique. Fougantini, transporté de joie et certain désormais de réussir, déposa le jour même la lettre et son volumineux manuscrit sur la table de l'huissier qui, au lyrique, gardait l'entrée du sanctuaire directorial. Le lendemain, à l'heure de la répétition, le compositeur, rasé comme un jeune premier, ganté comme un notaire en visite, se fit précéder de sa carte et, sur sa demande, fut introduit chez le directeur. Le mot de l'ambassadeur avait produit son effet. L'impresario, fort occupé à ce moment, déclara au maestro que, dès qu'il aurait une demi-journée de liberté, il la consacrerait à l'examen de son ouvrage. Cette réponse, comme on pense, ne le satisfit pas complètement. Chaque matin, vers midi, la fameuse toque de Fougantini faisait régulièrement son entrée dans le foyer des artistes où les cabotines aux minois fripons saluaient son apparition par des rires étouffés. Les semaines s'écoulaient, mais la fille du soleil n'avait point encore quitté son carton. Le directeur promettait toujours. Il fallait avoir un peu de pitié pour lui, que diable! Son métier devenait impossible. Il ne savait positivement plus où donner de la tête. Il s'occuperait incessamment de l'œuvre dont on lui disait beaucoup de bien. Fort heureusement pour lui, le maestro, fidèle à ses principes, ne se décourageait pas. « Je ne vous demande qu'une petite audition, rien qu'une petite audition » suppliait-il. Et il a demandé d'un air si humble et cependant si résolu sa petite audition qu'on finit par la lui accorder. Le succès de la fille du soleil dépassa toutes les prévisions. Des artistes de bonne volonté s'étaient par complaisance chargés d'apprendre les rôles au pied levé. Fougantini les accompagnait lui-même au piano. Les principaux critiques et quelques abonnés avaient été conviés à cette fête intime. Dans un élan d'enthousiasme digne de notre temps, cet auditoire d'élite fit bisser le chœur d'entrée, un duo, la romance du ténor, le point lumineux de la partition et la marche nuptiale du cinquième tableau. Quand la toile tomba sur le magistral septuor qui clôturait l'ouvrage, l'un de ces messieurs, le plus malin, lorsqu'il s'agissait de deviner un succès, s'écria, en sautant au cou du directeur ravi, « Mes sincères compliments, mon cher! Vous avez mis la main, non pas sur un chef-d'œuvre, mais, ceci je vous le garantis, sur un opéra qui nous promet un maître pour l'avenir. » Adossé à un portant, derrière la coulisse, oublié dans ce coin assombri où les livides lueurs de la rampe n'arrivaient pas, le maestre, remué jusqu'au fond des entrailles par les applaudissements qui éclataient avec un bruit de grêle dans la salle vide, tremblait de tous ses membres, puis, sous le charme d'une émotion indéfinissable, fermant les paupières, put voir pendant une seconde, nettement dessinée sur des cercles multicolores, avec sa vigne de muscat grimpante au-dessus de la porte, sa toiture peuplée de colombes, la maison d'Orvieto qu'il avait si longtemps habitée, et où la nouvelle de son triomphe allait parvenir bientôt, commentée, grossie, exagérée peut-être, par les mille bouches de la presse. Chapitre 3. L'impresario n'hésita plus. Certain de tenir un succès, il se mit immédiatement à la besogne. Les costumiers, les décorateurs, imitèrent son exemple. Les rôles de la fille du soleil avaient été distribués aux chefs d'emploi de la troupe. Fougantini faisait répéter chaque jour. Il s'était, pour ainsi dire, installé au théâtre, le faisant vivre de sa fièvre, toujours debout, surveillant les effets de mise en scène, dirigeant les ensembles, les lectures, à l'orchestre. Aux approches de la nuit, après 8 ou 10 heures de ce rude labeur, il allait modestement dîner dans une fruiterie voisine et rentrer dans son garni, où, à peine arrivé, assis devant une table boiteuse, éclairé par sa bougie, il remaniait les parties de son orchestration qui lui paraissaient défectueuses ou incomplètes. Un soir, la fatigue fut plus forte que la volonté du maestro. La plume s'échappa de ses doigts, sa tête s'affaissa sur ses bras croisés, et tandis que, tout près de ses cheveux, la bougie continuait à brûler, il s'endormit. Alors, sous la bienfaisante influence du sommeil, il eut un rêve. Dans le resplendissement d'une flottante poussière d'or, il vit représenter son œuvre avec un luxe de décors et de costumes, un souci des choses exactes, auprès desquelles tout ce qu'il avait imaginé n'était qu'un enfantillage de malade. Entassé dans une salle de spectacle, immense comme un cirque, le public, impatient, les lorgnettes braquées sur le rideau encore baissé, attendait que l'orchestre, sur un signe de son chef, attaquât l'ouverture de l'œuvre nouvelle. Soudain, 3 coups retentirent sur la scène. Il se fit un religieux silence, au milieu duquel les premières phrases de l'introduction babillèrent, reprises presque aussitôt par les flûtes. L'andante leur succéda, pour être à son tour remplacé par un allegro con fuoco, sur lequel la toile, cédant à la poussée d'un ressort invisible, monta vers les frises. La tension des esprits était telle que l'on entendait les frôlements du rideau s'enroulant sur lui-même. Le décor qu'il dévoila montrait, au loin, Héliopolis, la ville heureuse, endormie sous ses mimosas et ses palmiers. Des obélisques, des chapiteaux, des sphinx accroupis déchiraient la perspective. L'entablement d'un temple, précédé d'un large escalier de granit, occupait tout le côté droit de la scène. Les autres tableaux, qui servaient de cadre aux amours de la reine Satou, la fille du soleil, et de l'Eris Hathor, se suivirent, représentant une vue du Nil traversée par la cange enjolivée de peinture de la reine, la salle des festins du palais, une place publique d'Héliopolis, l'intérieur du temple de Menephta, et groupée parmi ces magnificences de l'Arabie, sous la vaste coupole du ciel, au son joyeux des tambours et des sistres, les guerriers à chevelure crépue, nus jusqu'à la ceinture, les belles esclaves basanées, à peine vêtues d'une robe de gaze transparente, les prêtres, enveloppés dans leurs longues tuniques, les Égyptiens aux costumes bigarrés de couleurs vives, passaient, escortant Satou et Hathor, qui, étroitement enlacés, pâles de bonheur, du haut de leur char traîné par des beurrous, autour duquel les danseuses, coiffées de casques d'or, agitaient leurs éventails ornés de plumes d'autruche, saluaient le peuple. À mesure que l'action se déroulait, le public applaudissait, le cœur en fa des guerriers, le duettino entre Satou et Hathor, le brindisi sur un rythme à 2 temps du prince Timopte, le vin c'est la vie, Puis, pendant le ballet, après le largo où pleuraient les violoncelles, le kerzo sautillant qui enlevait le bataillon des danseuses, et enfin la marche nuptiale, au-dessus de laquelle mugissait le tutti formidable des cuivres. Une longue acclamation retentissait. Les spectateurs appelaient à grands cris les interprètes de l'œuvre. Le nom du maestro était jeté à la foule au milieu des vivas et des bravos. La morsure d'une flamme réveilla subitement le dormeur. La bougie s'était consumée, sa mèche, jusque-là immobilisée dans une mare de graisse à demi figée, venait de s'abattre sur la main gauche du dormeur et y laissait la trace rose de son cuisant baiser. Chapitre 4. Le jeudi suivant, la destinée a parfois de ces revirements imprévus. Au moment de franchir le seuil du théâtre, Fougantini fut fort surpris de trouver la porte des artistes fermée par une plaque de tôle qui protégeait quatre larges empreintes à la cire. L'impresario était tombé en faillite. Ah, la mâle journée ! La fille du soleil, prisonnière sous les scellés, ne désespérait pas de l'avenir. Il fallut attendre que toutes les formalités judiciaires fussent accomplies. Le maestro fit tentative sur tentative pour entrer, avant la vente du matériel, en possession de ses manuscrits. Le liquidateur ordonna des recherches qui n'aboutirent pas. La partition, les parties d'orchestre, tout avait disparu. Personne n'en entendit plus parler. Le temps coulait, les mois succédaient aux mois, et avec eux disparaissait l'argent, fruit d'une lente économie. Il restait juste quelques louis au fond de la boîte qui, naguère, contenait le trésor de l'organiste. Guido aurait certainement pu écrire de nouveau sa partition, mais pour cela, l'heure eût été mal choisie. Avant tout, il fallait songer à vivre. Vivre, c'était là le plus pressé. Comment? Avec quoi? En 5 semaines, Fougantini n'était pas parvenu à se procurer une leçon. Et nullement ami ne se tendait vers lui. La misère vint, l'implacable misère, doublée des espoirs déçus et de l'abandon. Le compositeur n'avait même plus un rouge liard en réserve. Une maladie d'épuisement, causée par ses excès de travail, le tenait cloué sur le lit. La propriétaire, lasse de nourrir et de loger gratis ce naufragé de l'océan parisien, parla de l'envoyer à l'hospice. C'est ce qui fut fait. Le commissaire de police du quartier consentit à laisser transporter le malheureux Fougantini à l'Hôtel-Dieu. L'une des saintes filles qui donnait leurs soins à sa salle, sœur Louise, touchée de son infortune, l'entoura d'un dévouement maternel. Malgré son incessante sollicitude, aucune amélioration ne se produisit dans l'état du malade, dont l'organisme, profondément altéré, s'affaiblissait de jour en jour. Pauvre, pauvre petit maestro! Le cœur vous aurait saigné si vous aviez vu, sous les amples rideaux de son lit de fer, ses mains amaigries, son nez pincé, ses yeux caves. Il en était revenu, maintenant, de ses rêves de gloire et de grandeur. « C'était un succès !» disait-il quelquefois à la sœur d'une voix dolente que mouillait l'amertume de ses regrets. « Ma, voyez-vous, je n'ai pas où la sens !» Et la poitrine gonflée de sanglots, le visage bouleversé, il retombait sur son oreiller avec un geste découragé de vaincu. Ah, quelle était loin à cette heure la paisible maison hospitalière d'Orvieto! Sœur Louise avait beau lui dire qu'il serait promptement rétabli et que, d'ici là, il aurait sans doute reçu des nouvelles de son ami, le vieux curé, auquel, sans l'en prévenir, elle avait écrit. Paroles vaines, pieux mensonges inutiles. Il sentait bien, lui, qu'il ne verrait plus, non, plus jamais, ni la maison, ni la vigne aux grappes vermeilles, ni les colombes affolées d'amour, roucoulant et battant des ailes au grand soleil. Un matin, à l'heure où elle lui apportait son bouillon, sœur Louise annonça au malade qu'un monsieur très âgé avait demandé et obtenu la permission de l'entretenir. Ce visiteur inattendu était un conseiller à la cour d'appel de Paris. Très épris de tout ce qui se rattachait à l'art, il connaissait la position fâcheuse de Fougantini et déclara que le hasard lui ayant fait découvrir, la veille, parmi les vieilleries entassées dans la boutique d'un marchand de bric-à-brac du quai Voltaire, la partition, considérée comme perdue, de la fille du soleil, il s'était cru obligé de venir, lui-même, la rapporter à son auteur. L'émotion produite par cette découverte précipita la catastrophe, redoutée depuis longtemps par les médecins. Guido n'eut pas la force de remercier son bienfaiteur. Un éclair de joie traversa ses prunelles vitreuses, un sourire entr'ouvrit ses lèvres blêmes, puis sa tête intelligente et fière retomba lourdement. Le maestro d'Orvieto avait vécu.